Alors, lancer du psychodrame, on peut dire que c'est Hamlet, tout à fait. D'ailleurs, on peut dire aussi autre chose. On peut dire que l'ancêtre du psychodrame psychanalytique individuel, je crois que c'est Ferenczi. Ferenczi s'est mis à jouer avec ses patients en séance. Pas toujours en passant à l'acte, hein, parce qu'on se rappelle tout de suite la scène du baiser. Il se laissait embrasser par une patiente. Enfin, il a cédé une fois, puis s'est laissé faire plusieurs fois aussi. Non, c'est pas ça que je parle. C'est la fameuse scène où il est avec un vieux monsieur et il joue le rôle du grand-père. Enfin, je ne sais plus. Enfin, peu importe. C'est-à-dire qu'il se met à jouer dans la séance pour endosser le rôle que lui donne le patient et répondre dans ce rôle-là. Hein. Voilà, donc on peut dire que c'est Ferenczi. Sinon, ce que raconte Serge Debovici, et ça je veux bien le croire, c'est qu'en fait il avait entendu parler du psychodrame maurienien, mais ce qu'il a mis en place n'a pas grand-chose à voir avec Moreno. D'ailleurs, quand on compare le psychodrame maurienien avec le psychodrame psychanalytique individuel, on se rend compte que ça n'a strictement rien à voir. Par exemple, le psychodrame psychanalytique individuel vise justement à s'arrêter dès qu'il y a une production de l'inconscient. Au contraire, dans le psychodrame Moreno, on s'étale, on favorise l'affect, on étale son moi et ça dure des heures d'ailleurs. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pour ça d'ailleurs que la règle du semblant a été ajoutée très vite par Debovici, Tatine et Kestenberg, quand ils se sont rendus compte que au départ, les enfants pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ça a donné une catastrophe. Donc la règle du semblant est très importante. Pourquoi ? Et parce que c'est beaucoup plus suggestif de parler de ce qu'on fait que de le faire. Si vous touchez l'épaule d'un patient, vous allez obtenir des effets, mais des effets qui ne seront pas, qui ne pourront pas se dire parce que ils ne pourront pas être pensés, ils ne pourront pas être représentés. Si vous dites par contre que vous avez envie de lui toucher l'épaule et que votre main, que le contact vous fait ceci ou vous fait cela, bref, si vous verbalisez les choses au lieu de les faire, vous allez avoir quantité de représentations qui vont affluer et qui vont avoir un effet assez extraordinaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des scènes qui sont difficiles à jouer, les scènes de coït ou les scènes de violence aussi sont très difficiles à jouer. Pourquoi ? Parce que les éco-thérapeutes veulent toujours être des bons thérapeutes gentils, ce qui n'est pas ce que demande le patient en l'occurrence. Et en revanche, arriver à jouer des scènes de sadisme, maintenant l'éco-thérapeute y arrive et les patients sont absolument ravis. Mais pourquoi ? On a toujours peur de la pulsion, vous comprenez ? On a peur de... Pourquoi ? Parce que la pulsion dépasse toujours les limites par définition. Hein, et ça nous déborde, ça nous dépasse. Et on a peur de la jouer, a priori. Alors que quand on la joue, on se rend compte que le sujet lui-même met des barrières, hein, des barrières psychiques, il va les mettre, c'est lui qui va s'arrêter. Et à chaque fois qu'on voit dans une scène, justement, une pulsion qui est mise en œuvre, une pulsion mortifère par exemple, une pulsion ou amoureuse, mais surtout mortifère, et qu'on voit qu'ensuite le sujet ayant tué son partenaire, il se trouve tout seul, il regrette, il va pleurer, etc., on voit à ce moment-là que ça déjoue le passage à l'acte, puisque justement, on va imaginer ce qui va se passer après, alors que quand on est dans le passage à l'acte, on ne l'imagine pas. Je vois un jeune garçon, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est tout fou. Il veut placer des choses sur les rails pour voir le train s'arrêter. Mais le co-thérapeute qui jouait son copain, à juste titre, a dit « Mais non, le train ne va pas s'arrêter, il va dérailler, il va y avoir plein de morts, etc. Et ça sera très bien, ça sera très drôle, on va bien rigoler. » Et du coup, le patient a été saisi, a compris que son acte était dangereux. Alors j'ai découvert le psychodrame étant étudiant encore, en 67, en Israël, à l'hôpital Tel HaShomer. J'ai assisté derrière une vitre sans teint à un psychodrame avec une psychotique qui ne savait pas comment ce qu'elle allait dire à ses amis quand elle sortirait de l'hôpital. Et donc, elle ne pouvait le deviner, ce qu'elle allait dire, qu'en jouant. Et ça, ça m'a frappé, parce que d'abord, je ne pensais pas que les psychotiques, c'était ça qui les inquiétait le plus. Hein, que, et finalement, le psychodrame était un moyen pour elle de se mettre en situation réelle, pour affronter l'extérieur. Voilà, donc c'était traduit par une Suédoise qui traduisait de l'hébreu en français. Et voilà ma première expérience de ce qu'était le psychodrame.
Et ensuite, vous avez...
Ensuite, j'ai assisté au psychodrame de Questenberg. Et puis très vite, je me suis mis à en faire moi-même, à l'hôpital, avec des expériences diverses, mais passionnantes. Et ça passionnait les infirmières aussi. Hein? Alors c'est une époque pour moi, une époque héroïque, parce qu'on faisait avec qui voulait, enfin, une stagiaire, une ergothérapeute, etc. Et ça marchait très très bien. Et puis j'ai fait du jeu de rôle aussi. Je me rappelle toujours qu'on m'avait mis... on m'avait fait jouer le rôle d'un adolescent qui refusait ou qui voulait qu'on lui donne une télé dans un foyer. Enfin. Et donc j'ai joué l'adolescent, très adolescent, donc très embêtant pour l'éducateur qui jouait le rôle de l'éducateur en face de moi. Et puis le meneur de jeu a inversé les rôles après. Alors là, je me suis retrouvé dans la position de l'éducateur. Alors ça, cette inversion des rôles, ça... Le jeu de rôle est un... Quand on est formé au psychodrame, le jeu de rôle permet énormément de choses en consultation. Énormément. Alors certains ont comparé le psychodrame au rêve. Personnellement, je ne pense pas. C'est-à-dire que, au contraire, quand il arrive par exemple que les patients jouent des rêves, hein, à ce moment-là, on peut faire intervenir, et pratiquement toujours, quelqu'un qui va les réveiller de leur rêve, la mère, etc. Mais le rêve, au point de vue métapsychologique, enfin, au point de vue dynamique, au point de vue économique plutôt, au sens freudien du terme, ne met pas en jeu les mêmes forces que le psychodrame. Parce que justement, dans le psychodrame, vous êtes dans la réalité. Hein, et vous allez pouvoir accéder ou non au fantasme, et à l'imaginaire, transformer l'imaginaire en fantasme, ça c'est une vaste opération. Puisqu'au fond, et c'est ce que permet le psychodrame, c'est de, à partir de l'imaginaire de toute situation, un imaginaire, vous allez le transformer en fantasme, c'est-à-dire vous allez lui donner sens et un sens pour vous. Hein, et ça, c'est ça le fantasme. Hein, c'est quelque chose qui permet de reconnaître un sujet qui a choisi tel ou tel objet d'élection. Voilà, donc c'est à travers l'imaginaire. L'imaginaire est symbolisé grâce à la parole libérée au psychodrame. Mais une parole qui est... C'est surtout après l'arrêt de jeu qu'on voit à ce moment-là si l'imaginaire a été transformé en fantasme ou non. C'est-à-dire si le sujet le reprend à son compte ou pas. Hein, c'est, au fond, le psychodrame, c'est ce qu'on... Tout le monde souhaite que le psychodrame entraîne une intériorisation des représentations. C'est vraiment le souhait. Quand on voit ces patients qui sont apparemment lisses à toute interprétation et qui n'ont eux-mêmes pas de communication avec leur inconscient. C'est plus que le théâtre, parce que c'est... Mais en même temps, il faut du théâtre aussi. Voilà. Mais il faut du théâtre. Moi, je dis toujours à mes co-thérapeutes, mais soyez plausibles. Hein? Alors bon, quand on va jouer une... J'en ai mis deux dans un fauteuil, j'ai dit, mais asseyez-vous au lieu de rester debout, parce qu'on a tendance à rester debout, parce que ça défile, on a tellement de cas. C'est pénible de ramener les chaises, puis mettez-vous assis, vous verrez, c'est beaucoup plus facile de jouer certaines scènes intimistes en tournant le dos au co-thérapeute qui ne joue pas et qui regarde. Alors, la technique de jeu est assez difficile et quand on y réfléchit, ça demande plusieurs opérations presque simultanées qui sont... Hein, il faut d'abord entendre le patient, c'est pour ça que je fais durer les entretiens préliminaires à la scène, en tout cas en tant que directeur de jeu, je les fais durer un petit moment pour montrer aux co-thérapeutes qui vont être choisis ce qu'ils vont pouvoir jouer, si vous voulez. Ça, c'est important. Donc, il faut... À la place du co-thérapeute, on écoute ce que dit le patient et souvent on se dit pourvu qu'il ne me choisisse pas, parce que moi-même je suis co-thérapeute aussi, parce que je ne sais pas ce que je pourrais jouer là. On se dit parfois ça, des fois au contraire on se dit oh là là, c'est très bien parce que là je sais ce que je vais pouvoir jouer. Bon, enfin bref, il faut écouter. Ensuite, si on est choisi, il faut traduire ce qu'on a entendu dans la langue du patient. Ensuite, il faut le restituer dans le rôle que le patient vous a donné et d'une manière la plus spontanée possible. Et puis, dernière opération, c'est-à-dire que le patient, à la façon dont répond le patient, vous devez modifier ce que vous avez dit en fonction, c'est-à-dire que vous n'allez pas dans la même direction si vous voyez que le patient n'y adhère pas. Alors, il y a aussi une technique aussi qui est intéressante, c'est quand le patient se tait complètement, alors que d'évidence, la situation mériterait qu'il parle ou qu'il s'oppose, etc. Alors, à ce moment-là, c'est une technique qui consiste à se placer derrière le patient. Alors, en tant que co-thérapeute, quelquefois le directeur de jeu aussi peut faire ça, puisqu'il représente le patient d'une certaine façon. Et à ce moment-là, vous mettez derrière, de façon à ce que le co-thérapeute qui est en face parle au patient et non pas à vous. Hein. Ça, c'est important à cause des différences de taille. Soit que le patient soit beaucoup plus grand que vous, soit que le patient soit au contraire tout petit. Bon, peu importe. Donc, le co-thérapeute en face du patient fait comme si c'était le patient qui parlait. Et le co-thérapeute qui fait le double... dit quelques mots, mais simplement pour amorcer, hein, c'est le starter, pour amorcer une parole, et à ce moment-là, très souvent, on voit que le patient fait comme si c'était lui qui avait parlé, et continue sur cette même lancée, donc on voit qu'on était bien dans le discours inconscient du patient. Au psychorame, on a beaucoup d'émotions, et on a une émotion particulière qui s'appelle le fou rire. Heureusement, on n'a pas trop souvent, mais ça montre qu'on libère les processus primaires, hein, et que le patient se met à rire, l'éco-thérapeute aussi, le directeur de jeu. Alors quand ça atteint le directeur de jeu, à ce moment-là, il faut arrêter la séance, parce qu'on ne peut pas reprendre. Mais donc ça libère des émotions, et effectivement des émotions esthétiques aussi, on peut le dire, devant la pureté de certains dits, enfin qui sont assez étonnants. Et ce qui marche, au fond, ce qui marche, c'est rien d'autre que la parole, mais une parole qui ne marchait pas dans une situation normale, enfin dans une situation d'examen. Hein, vous êtes dans une situation d'examen, vous posez des questions, vous ne pensez pas pourquoi ? Parce que votre préconscient n'est pas disponible. Vous ne pensez pas à ce que vous allez, pouvoir dire, justement, qui serait important. Hein. Et en revanche, dans le jeu, vous le dites spontanément. Donc, le psychorame fait parler. Et c'est cette parole qui, au fur et à mesure des séances, fait que, à un moment, le patient dit « Mais je ne peux pas vous raconter des choses intimes devant tout le monde. » Et à ce moment-là, il faut comprendre que le psychorame a fait son effet. C'est-à-dire qu'il permet ensuite au patient de faire une psychothérapie ou une psychanalyse et d'associer librement parce qu'il a compris, au fond, que c'est sa parole qui pouvait le représenter. Pour moi, c'est une introduction au travail analytique, même s'il n'y a pas d'analyse après, mais c'est une introduction au travail analytique. C'est d'ailleurs littéralement pré-analytique. Théoriquement, on peut dire que le psychogramme met la psychanalyse en perspective. Hein, puisqu'au lieu d'avoir le patient et l'analyste derrière, vous avez le directeur de jeu qui représente l'analyste, le patient et l'écothérapeute. Et l'écothérapeute permettent tout simplement de jouer la construction de l'analyste. C'est-à-dire que la construction de l'analyste, la construction freudienne, l'analyste ne l'a plus seulement dans sa tête, il l'a fait jouer. Le but du psychodrame, c'est de faire produire des lapsus, produire un arrêt de jeu, produire des sorties de jeu, des choses comme ça. Et pour ça, donc, le directeur de jeu fait introduire parce que les scènes s'enlisent la plupart du temps, c'est normal. Donc, il fait toujours introduire des tiers. C'est une façon d'interpréter l'introduction de tiers. C'est une façon d'interpréter, et de la même façon, il va interrompre la séance parce que il pense que la séance a fait son effet. Et à ce moment-là, il discute avec le patient pour lui demander si le patient a pris conscience de ce qu'il venait de dire. Hier, par exemple, il y a un patient qui joue la mère d'un copain, enfin, il joue avec la mère d'un copain, c'est un patient très excité, très tout fou, on dira, mais qui a compris ce que c'était le psychogramme, qui attend à son heure, etc. Et tout d'un coup, la mère de ce copain, il l'appelle maman. Bon, alors évidemment, on va arrêter tout de suite, on va lui demander pourquoi... Et on va voir effectivement qu'il y a un transfert très important sur cette mère. Alors le corps est en jeu, je crois qu'on peut dire qu'avant de parler, on est des corps. Et ce qui est intéressant justement dans le psychogramme, c'est de voir que le jeu précède le langage. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu de jeu avant, il n'y aurait pas de langage. Hein, c'est le jeu qui prépare le terrain. Le cognitivisme chez le nourrisson montre bien que c'est par jeu, hein, par essai de jeu, d'essai, d'erreur, par tâtonnement que le nourrisson arrive à apprendre. Et d'ailleurs, on a montré qu'il avait un sourire quand il comprenait quelque chose et qu'il se lassait très vite, c'est-à-dire qu'il avait envie d'apprendre. Enfin bref. Le jeu précède le langage et le permet. Voilà. Donc le psychodrame, on peut dire que c'est quelque chose qui mesure ça, enfin qui permet une expression préverbale qui va être verbalisée justement par l'écothérapeute dans un jeu interprétant. Alors bien sûr, ça touche des zones pré-génitales plutôt, puisque l'Œdipe étant là tout de suite, on peut dire plutôt pré-génitales, parce que justement le cadre lui-même favorise la scène primitive, favorise, enfin l'Œdipe est déjà là si vous voulez, et du coup ça permet d'autant plus le pré-génital, les pulsions de s'exprimer. Alors à condition que justement les pulsions... Je dis toujours au co-thérapeute, mais faites un jeu pulsionnel parce que c'est de là que tout part. C'est de là que tout part. Et en même temps, vous me posez la question du corps. Le corps, c'est le psychogramme permet de réintroduire le corps dans la psyché quand quelquefois justement le patient met son corps à distance. Alors, la question du transfert est une vaste question. Je ne crois pas qu'on puisse y répondre encore maintenant, je crois qu'elle n'est pas résolue en psychodrame. Mais personnellement, et c'est pour ça que je pense qu'un bon psychodrame doit se terminer par une analyse, parce que je pense que, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que même s'il y a un transfert positif important, mettons sur le directeur de jeu, je pense que ce transfert n'est pas de la même qualité que celui de l'analyse, parce que le directeur de jeu n'est pas tout seul. Et donc, n'étant pas tout seul, il est, au fond, rabaissé, du grand autre au petit autre, si vous voulez, enfin, pour aller très très vite. Et donc, la qualité du transfert, et notamment le fait que le transfert est à la limite inanalysable, cette chose-là, c'est pas qu'elle se voit pas en psychogramme, elle se voit, mais ça ne fait pas effet. Ça ne fait pas effet parce que le patient abandonne. Alors, ce qu'on peut dire en revanche, c'est que, on a parlé de dilution, de fragmentation. Moi, je préfère dire qu'il y a deux types de transferts, un symbolique et un imaginaire. Transfert imaginaire, c'est par exemple le patient qui choisit l'ergothérapeute parce qu'il a des chaussures de telle marque et qu'il s'identifie comme ça à lui de manière imaginaire tout à fait fortuite. Ou parce qu'il va choisir une autre ergothérapeute parce qu'elle lui plaît ou parce qu'elle lui rappelle sa grande sœur ou sa mère, enfin bon, des choses comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle le transfert imaginaire. Puis il y a le transfert symbolique, c'est-à-dire quand le patient pense que le praticien va pouvoir l'aider à résoudre son problème, donc quand le patient va penser que le praticien en sait plus que lui sur lui-même. C'est le fameux sujet supposé savoir de Lacan. Là, on peut dire qu'il y a un transfert symbolique, en général, un transfert symbolique sur le directeur de jeu. Voilà. Mais je vous dis encore que la qualité du transfert n'est pas la même qu'en analyse, et c'est pour ça que... D'ailleurs, un patient qui avait des tocs, qui n'en a plus, qui a fait ensuite une dépression, parce qu'il n'avait plus de tocs, bien sûr, et qui, grâce au psychodrame, a fait ensuite une analyse 3 séances par semaine, et il me disait, parce qu'il vient me voir de temps en temps pour me donner de ses nouvelles, et il me disait, c'est drôle docteur, grâce à la psychanalyse, je prends conscience de ce que j'ai dit au psychodrame. Je trouve ça assez joli, hein, parce qu'au fond, il avait dit les choses d'une manière... D'ailleurs, beaucoup d'adolescents disent, ça plaît beaucoup aux adolescents, le psychodrame, ça, il faut le dire, aux enfants aussi. On peut prendre des enfants à partir de 3 ans, hein, quand ils parlent. Moi, j'ai vu un enfant en cours poétique. À ce moment-là, on modifie un petit peu le jeu, c'est-à-dire qu'on joue un peu plus avec eux, on se met à 4 pattes, on fait les animaux, etc. Et on interprète de la même façon. Le psychodrame permet de terminer son analyse. Pourquoi ? Parce que le psychodrame, et c'est la même question au fond qu'avec l'adolescente dont je vous ai parlé tout à l'heure qui avait du mal à se séparer de sa mère. Au fond, c'est la même chose. Pourquoi ? C'est pas parce que le transfert va se diluer avec les co-thérapeutes. C'est parce que le transfert ne pouvait pas s'analyser. En analyse, comme vous le savez, les résistances sont celles de l'analyste. C'est pas Lacan qui l'a dit, c'est Freud, c'est dans Freud. Et donc c'est parce que l'analyste ne voit pas lui-même certaines choses. D'ailleurs, c'est pour ça que le psychodrame sert énormément dans l'analyse, hein, pour l'analyste, ça le sert beaucoup parce que justement, ça va lui permettre de penser. À des situations psychodramatiques, même si son patient reste sagement allongé sur le divan, qui vont lui permettre de parler et donc qui vont permettre au patient de parler aussi. Vous savez, il y a beaucoup de patients qui ne parlent pas parce qu'ils ne se sentent pas autorisés par leur analyste. Donc l'analyse qui n'arrive pas à se terminer, c'est parce que justement il y a des éléments non dits. De dépendance archaïque, bien sûr, qui ne peuvent pas se présentifier à la conscience. Et donc, le psychodrame va aider simplement à se les représenter, et donc à se dire en séance, voilà. Beaucoup d'analystes imaginent que le psychodrame va favoriser le passage à l'acte. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le psychodrame, au contraire, va déjouer le passage à l'acte et déjouer d'ailleurs l'inhibition. Pourquoi ? Bah parce que c'est la même chose. Le passage à l'acte survient précisément parce qu'il n'y a pas de représentation préconsciente suffisante pour représenter la pulsion. Bien. Donc, si vous voulez, à un moment, on n'en peut plus et donc il faut que ça passe, il faut que ça agisse, ça ne peut pas se dire, donc ça va s'agir. Le psychodrame, en permettant au contraire de verbaliser la pulsion, va permettre une inhibition normale, la seconde inhibition. La première, celle que je viens de vous décrire, c'est l'inhibition de la science des rêves. Mais dans l'inhibition symptôme-angoisse, la véritable inhibition, c'est de pouvoir choisir ce qu'on va réprimer grâce au langage. C'est-à-dire qu'ensuite, le préconscient... représentant la pulsion comme il le faut, on va pouvoir choisir les pulsions qu'on a envie qu'on accepte en tout cas chez soi, qu'on a envie dont on autorise l'expression et ne pas permettre les autres. Hein, donc c'est un choix, ça n'est plus. Donc ça, le psychodrame déjoue à la fois l'inhibition, celle de l'inconscient par le, celle dont l'inhibition du préconscient par l'inconscient, et le passage à l'acte du même coup. Voilà, je crois que c'est important de le dire parce que par exemple, le psychodrame est une excellente indication de la psychopathie, où justement dans la psychopathie, le passage à l'acte est permanent. Permanent, pourquoi ? Parce que c'est des sujets qui sont pris dans des, dans des relations en général incestueuses avec la mère, par exemple, et qui ne peuvent pas l'exprimer ou qui ne à qui ça fait très peur. Alors les indications, c'est tous les gens qui ne peuvent pas associer en analyse, ils sont nombreux. Beaucoup plus nombreux qu'on ne croit, enfin, et même en analyse, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à associer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut faire un psychodrame individuel parallèlement à la psychanalyse, voire faire du psychodrame individuel à la fin d'analyse parce qu'on n'arrive pas à terminer. Hein, pourquoi ? Parce que ça va mettre en jeu des pensées inouïes, des pensées inédites, des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir dire. Donc c'est aussi extrêmement formateur. Pour les co-thérapeutes qui sont en général en cours d'analyse, je leur dis toujours que ça va vous gagner plusieurs mois, voire plusieurs années d'analyse. Pourquoi ? Parce que justement, ils vont pouvoir mettre en jeu des choses à quoi ils ne pensaient pas. Et alors que dans une analyse ordinaire, dirons-nous, les rencontres faites à l'extérieur peuvent favoriser ce dire, mais beaucoup moins qu'au psychodrame, parce que là, ils rencontrent la pathologie dans ce qu'elle a de plus fort, et finalement c'est cette pathologie-là que le sujet va rencontrer ensuite dans sa vie professionnelle. Donc les indications du psychodrame, si on prend les structures les unes après les autres, on peut dire que dans l'hystérie, il y a beaucoup d'indications. J'ai vu récemment une jeune fille hystérique prise en psychothérapie, qui continue à faire des malaises avec une conscience... à la Charcot, enfin, c'est-à-dire une demi-conscience, elle ne savait pas ce qu'elle disait, elle disait ne me laisse pas toute seule, elle ne savait pas à qui s'adressait ce. On a vu grâce au psychodrame à qui s'adressait ne me laisse pas toute seule, hein, c'était soit la mère qui lui disait ne me laisse pas toute seule, soit elle qui le disait à sa mère, enfin bref, le psychodrame a montré que le symptôme lui-même, qui ne guérissait pas par la psychothérapie, était là pour montrer à quel point elle ne pouvait pas se séparer de sa mère. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas, finalement, faire son processus d'adolescence. Et cette jeune fille a guéri en 4 séances. En 4 séances de psychodrame, justement parce que à la fin du psychodrame, alors qu'au début, elle demandait toujours des idées de jeu à sa mère parce qu'elle n'en avait pas, à la fin, quand la mère du psychodrame, pas la mère réelle, lui donne des idées, elle lui dit mais tes idées ça m'intéresse pas du tout, elles sont nulles, voilà. Et voilà comment cette jeune fille a pu ensuite, alors elle a continué, elle n'a jamais arrêté sa thérapie, elle a continué, mais elle ne faisait plus des malaises très invalidants puisque à chaque fois fallait l'emmener souvent à l'hôpital où bien sûr les examens étaient tout à fait normaux. Donc vous voyez que ça va de l'hystérie. Alors, évidemment, il y a des indications privilégiées, parce que dans certaines structures, il y a une parole plus difficile que dans d'autres. Alors, en particulier, les TOC, l'hyperkinésie sont des indications extraordinaires de psychodrame et permettent d'éviter une médicalisation et des médicaments qui sont quand même très, très gênants, je trouve, à beaucoup de points de vue. Alors, pour les psychotiques, je pensais jusqu'à une date récente que la seule contre-indication du psychodrame, c'était la paranoïa. Mais finalement, j'ai eu des cas où l'élément, en tout cas paranoïaque, était extrêmement important et qui ont accepté de faire du psychodrame et chez qui ça a été très utile. On a actuellement une paraphrène en psychodrame et elle est polyhallucinée, des hallucinations synesthésiques, auditives, visuelles, enfin bref. Et au psychodrame, elle a, c'est elle qui a proposé de jouer sa voix. La voix qu'elle entendait, qui était celle du diable, qui lui disait « N'écoute pas ta mère, elle t'aime pas, etc. Enfin, » ou « va te jeter sous le train, etc. » Donc elle a pu jouer sa voix en psychodrame, et après, elle était... Alors, elle n'est pas guérie, c'est-à-dire que la psychose est toujours là, mais il y a une distance quand même... extrêmement importante et extrêmement utile avec son symptôme.